Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers camarades, à l'ouverture de la troisième séance de l'histoire du Comité social administration des DDI, nous noterons la difficulté de l'administration à alimenter les ordres du jour de l'instance. Alors, bonne nouvelle, tant la dernière décennie a été marquée par un flux continu de saisines pour des textes d'accompagnement des réformes en cascade, ou résoudre les problèmes qui ne se seraient pas posés sans l'interministérialité 2010, sans les EGCD de 2021. Sachez en tout cas que nous ne mesurons pas la qualité des rapports sociaux au nombre de réunions, mais ni au poids d'ailleurs des ordres du jour. Mais des idées pour alimenter les travaux de cette instance en 2024, nous en avons. Et cette fois pour obtenir des avancées, pas seulement pour endiguer les effets des chantiers de démolition. Ceci sans empiéter sur les compétences des ministères. Avec au programme la mise en œuvre effective d'une protection des agents en cas d'agression, quelle que soit sa nature, sans préjuger des évolutions annoncées au niveau de la fonction publique. L'état des lieux de l'astreinte en DDI, 10 ans après la sortie des textes correspondants, et la mise sur table de mesures d'amélioration, augmentation des taux d'indemnisation après 10 ans de gel et 20% d'inflation, ou la bonification effective lors de JRTT imposés par exemple. Un geste en la matière fait rimer JO 2024 avec récompense et non punition. Les suites concrètes, ensuite, aux différents rapports d'inspection bénéficiant aux agents des DDI, SGCD, DETS, élections en intégrant la question du respect des droits syndicaux, médecine et réseaux de prévention. Les suites à donner aux enseignements à tirer des rapports sociaux DDI, les ex-bilans sociaux, pour les années 2021 et 2022. Tout ceci en complément de la feuille de route déjà fournie de la formation SSCT des DDI et en attirant votre attention sur la nécessité de coordonner les travaux entre CSA et F3SCT. C'est ce que nous opérons en tant que représentants du personnel, ce n'est pas forcément le cas côté administration. Nous attirons enfin votre attention sur le nécessaire respect du règlement intérieur de l'instance suite à cette phase de mise en place, en particulier en matière de délai de prévenance et de transmission des documents. Et il faut rappeler ensuite, ne pas être dupe des objectifs sous-tendus du plan de convergence RH inscrit à l'ordre du jour. Catalogue de mesures diverses non concertées, au bénéfice de l'administration la plupart du temps. Et quand cela est supposé bénéficier aux agents, il faut se battre pour que ce soit vraiment le cas dans les faits, notamment la question du maintien de rémunération en cas de mobilité par exemple. Les rares opérations concernant directement les agents des DDI l'ont été pour procéder à un alignement vers le bas, plus ou moins pour certains d'entre eux, notamment cycle de mobilité, restauration, CCRF. Et pour sortir du plan technocratique, EFO tient à ancrer les débats sur de vrais sujets concrets. Où en sont les traitements des signalements de EFO en matière de carence de CIA 2022? Quand le MIOM et le MTECT arrêteront-ils de se renvoyer la balle sur le versement de l'année de retard ISS 2020? La question de la prise en charge et de l'instruction des CPF est-elle vraiment tranchée? Quel bilan de la faculté 3% sur le redéploiement des effectifs des services déconcentrés par les préfets de région? Et nous réaffirmons ici que l'on n'acceptera pas de nouveaux reculs en la matière, notamment en termes de mobilité, et certainement pas sponsorisés par les JO. Et nous ne nous laisserons pas non plus manger notre action sociale ministérielle. Concernant l'état des restructurations, EFO rappelle son opposition à toute nouvelle restructuration générée par un abandon ou transfert de mission, une réduction d'effectifs ou un jeu de mécano administratif. Mais dès lors que restructuration il y a, elle doit être assumée par l'administration. Cela passe par un arrêté de restructuration pris au bon niveau, comprenant l'ensemble des mesures mobilisables. Cela passe aussi par l'interdiction des freins mis en place pour accorder le bénéfice aux agents. Combien d'agents couverts ayant des avis défavorables en mobilité, combien de refus de PRS au motif que 100% des missions d'un agent ne sont pas restructurées. Nous attendons à ce sujet un rappel à l'ordre des SGC. Sans parler du retard, volontaire ou pas, de l'administration pour prendre ces arrêtés, excluant les agents étant partis un peu trop tôt sur les conseils appuyés de leur hiérarchie. La vision nationale des restructurations est donc indispensable en cette instance. Au-delà des données générales, nous souhaitons disposer du nombre d'agents bénéficiaires des mesures d'accompagnement et des octrois et refus de PRS en particulier, avec la question de l'intégration dans les critères de la PRS de l'augmentation du temps de trajet sans forcément changement de résidence administrative. De la matière, il y en a donc. Je vous remercie.